Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On a chanté ce dernier chant qui nous rappelle qu'il y a comme un torrent d'amour et de grâce qui est là, et qui coule depuis la présence de Dieu jusqu'au cœur de celui qui va ouvrir justement son cœur, qui va accepter, qui va avoir la foi de croire que cet amour il est pour lui. L'amour de Dieu, il coule pour tous les hommes, mais tous les hommes ne bénéficient pas de cet amour. Et il y a une façon d'être, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir accéder à ce fleuve qui coule. Il y a un comportement à avoir, il y a une attitude qu'il faut respecter pour accéder à ce comportement. Vous avez lu comme moi, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et je voudrais commencer juste cette méditation à savoir de quelle justice il est question. Parce qu'il y a beaucoup de justice auxquelles on peut penser. Et moi, j'ai pensé à plusieurs types de justice différentes. Déjà, notre propre justice. Est-ce que c'est celle-là qu'il faut avoir faim et soif? À votre avis? Bien sûr que non. Vous savez que les pharisiens, ils étaient les champions de la propre justice. Ils avaient toute la loi, ils la connaissaient par cœur, c'est bien, mais ils avaient rajouté tout plein de commandements en plus de la loi. Parce qu'ils pensaient que c'était bien. Et ils respectaient scrupuleusement tout cela, parce qu'ils pensaient qu'en respectant ces choses-là, et même il y a des commandements qui faisaient en plus de la loi, qui venaient annuler certains qui étaient dans la loi, parce qu'ils pensaient que de cette manière, ils allaient être justes devant Dieu. Et Jésus, il a dit, dans le chapitre qui suit, je le lis pour vous, Matthieu 6, 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc tout de suite, il nous parle de cette justice qui est faite pour être vue, et bien ce n'est pas celle-là qu'il faut rechercher. Gardez-vous de cette justice qui consiste à faire des choses bien, à faire des bonnes choses, à respecter certaines choses, mais seulement pour être vu des gens, seulement pour avoir une bonne réputation, et pas le faire en réalisant vraiment ce que l'on fait en obéissant au Seigneur. Dans Luc au chapitre 11, verset 42, il dit, Jésus dit carrément, « Malheur à vous !» Donc c'est l'inverse de « heureux ».« Malheur à vous, pharisiens !» parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme sur toutes sortes d'herbes et on les imagine en train de mesurer la plante ou je ne sais pas, la rue, je ne sais même pas ce que c'est comme plante, mais on les imagine en train de donner une portion au Seigneur. Ah, ça c'est pour le Seigneur, ça c'est pour moi. Et dans des choses comme ça, alors que ils méprisent dans leur cœur Dieu, ils ne font pas ce que Dieu leur demande, alors que dans leur cœur, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Et ce n'est pas mauvais en soi d'avoir toutes sortes de principes, une bonne moralité, c'est tout, au contraire, c'est des bonnes choses. Mais si on le fait seulement pour notre réputation, seulement pour être vu des hommes, comme le faisaient ces pharisiens, eh bien on passe à côté. Et si on a la faim et la soif de la propre justice, d'être reconnu parce qu'on est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui fait des bonnes choses, mais que ça s'arrête là, eh bien, on passe à côté de ce que Dieu voudrait nous donner comme joie, comme paix, comme bonheur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ce n'est pas notre propre justice. Est-ce que c'est aussi la justice parfaite de Jésus? On peut se poser la question. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice parfaite de Jésus. Est-ce que c'est ça dont il est question? Moi, j'y ai réfléchi. Et je réfléchissais juste surtout à cet exemple. Est-ce qu'on a besoin du soleil? On a besoin du soleil pour... Parce que, bon, il y a la chaleur, mais on va passer sur le côté lumière. La lumière nous permet de voir ce que l'on fait la journée. Ça permet d'éclairer la terre. Et ça permet, nous, de réagir en fonction de ce que l'on voit. Mais si on regarde seulement le soleil sans rien faire d'autre, eh bien, on devient aveugle. La lumière du soleil ne nous sert plus à rien. Et de même, si on devient quelqu'un qui est très théologique, et quelqu'un de très théorique, qui se contente de contempler la justice de Jésus, et qui se contente de regarder la parole, et avoir une toute sorte de connaissance, et toute sorte d'intelligence sur les choses spirituelles, mais sans jamais les mettre en pratique, ça ne sert à rien, il va se brûler les yeux, quelque part. Parce que la lumière de Jésus, ce n'est pas quelque chose de théorique. Elle est là, Jésus nous a donné sa parole comme une lumière pour guider nos pas sur le sentier, pour que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Et sa parole, elle est là pour nous éclairer, pour que nous puissions prendre des bonnes décisions, pour que nous sachions quoi faire. Et tout cela est possible seulement si nous laissons éclairer, mais que ça éclaire quelque chose de concret dans nos vies. Si ça reste dans la théorie, et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir faim sauf de la justice parfaite de Jésus. Jésus, il est parfait. Jésus, il a été juste jusqu'au bout, toute sa vie. Il n'a jamais péché, il n'a jamais dit de mal, il n'a jamais menti. Il est juste, c'est vrai. Mais qu'est-ce que son comportement peut apporter à ma vie? De quelle manière son comportement, sa justice, va contribuer à ce que moi je fasse des progrès avec Dieu? C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Et pas seulement regarder dans une espèce de sainteté parfaite qui est hors de ma portée. Non, Jésus, il a été un modèle. Il est toujours un modèle d'ailleurs pour moi. Je veux le regarder comme un modèle de perfection, un modèle de justice, un modèle d'obéissance. Mais je veux que ça me serve dans ma vie concrète. Je veux que ça soit utile. Alors, est-ce que c'est aussi la justice de Dieu qui va punir les méchants et qui va épargner les justes justement? Bien sûr que non. Et je voudrais vous lire ce passage, on peut même le prendre ensemble, Romains chapitre 2, verset 6. Vous savez qu'un jour, il est question dans ce passage de ce jour du juste jugement de Dieu. Romains chapitre 2, verset 6. Un jour, il y aura le juste jugement de Dieu, et voilà ce qui va se passer. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère, à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y aura un jour où Dieu va récompenser les justes et va punir ceux qui sont pécheurs, ceux qui ont refusé d'obéir à la justice, qui ont été rebelles à la vérité. Il y aura un jour comme cela. Mais on sait très bien, en vivant sur cette terre, qu'il y a beaucoup d'injustices autour de nous. Et cet après-midi, Jérémie nous rappelait l'injustice qu'a connue Joseph, par exemple. Alors qu'il a été tenté par une femme de commettre l'adultère, il a refusé et il s'est retrouvé accusé à tort et mis en prison à tort. Et il est resté là quelques années, il n'est pas resté là deux jours. Jusqu'à ce qu'on voit que c'était faux. Il était quelques années en prison. C'était l'injustice, vous êtes d'accord? Est-ce que Jésus, il n'a pas vécu l'injustice aussi? Même s'il savait très bien, il avait choisi volontairement d'aller sur la terre pour livrer sa vie, mais est-ce que ce n'était pas l'injustice? Lui qui faisait que du bien, lui qui guérissait des foules entières, qui guérissait des malades, qui chassait des démons, qui ne faisait que du bien partout où il allait, il donnait des messages de paix, et il expliquait la loi de façon intelligible que les gens comprennent, alors que les pharisiens ou les scribes, peut-être ils employaient des mots tellement compliqués que personne ne comprenait, mais lui il parlait avec autorité et avec vérité. Et pourtant, il a été jugé et condamné à mort. Est-ce que ce n'est pas l'injustice? Mais c'est pas parce que Dieu ne fait pas justice maintenant qu'il ne fera pas justice. En tout cas, quand il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », ça veut pas dire « Seigneur, je veux que tu fasses justice, Seigneur, j'ai faim et soif, que tu me venges, tu vois ». Il y a un collègue qui est passé devant moi au travail parce que je suis chrétien et que le patron il le sait, alors il a favorisé lui. « Seigneur, fais-moi justice maintenant, tu permets qu'il arrive quelque chose, pour que ce soit moi qui ai la place ». C'est pas ça, avoir faim et soif de justice. Et il y a des injustices dans notre vie où c'est comme ça. Moi, je sais que j'ai connu des injustices dans ma vie parce que j'étais chrétien. Je me souviens, quand j'étais au lycée, on a trouvé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on est tombé sur des corrigés du devoir qu'on allait avoir le jour d'après. Et quelqu'un qui a trouvé ça, je crois, dans la poubelle. Et il a commencé à le partager. Et on était dans une petite classe, on n'était que 10, mais il y a les neuf autres, ils ont commencé à prendre les questions et à bûcher juste les questions et puis les réponses qu'il y avait, etc. Et moi, je me suis retrouvé là, j'étais le seul à refuser. Pour moi, c'était tricher, je ne voulais pas tricher, même si j'étais nul dans la matière, ce n'était pas ma matière favorite du tout. Et je savais que ce n'était pas bien que de prendre le questionnaire, enfin les corriger et d'aller faire le devoir avec les corrigés à côté. Et je me suis retrouvé. Et j'aimerais vous dire que ça s'est tellement bien passé, que malgré tout, le Seigneur m'a aidé. Et j'ai écrit quelque chose d'incroyable, ça m'a surpassé. J'ai eu une note excellente, mais ce n'était pas du tout ça. J'ai raté, j'ai eu la pire note. Tout le monde a eu 18, 19, moi j'ai eu, je crois, 8 ou 7. Mais j'ai fait de mon mieux, mais bon, ce n'était pas ma matière. Et c'était une injustice. Mais est-ce qu'on a faim et soif de justice dans le sens que Dieu n'intervienne dans nos affaires pour nous faire justice tout de suite parce que ça nous arrange? Ou est-ce qu'on se remet complètement et on a confiance dans le Seigneur? Et je me souviens que par la suite de cette période-là, ma note trimestrielle, elle était pas terrible, mais la prof, elle a remarqué quelque chose. Elle a mis les résultats ne reflètent pas du tout le niveau réel de l'élève. Elle a mis, moi j'ai rien dit de spécial, mais elle s'est rendue compte qu'il y avait eu quelque chose de particulier. Moi je suis pas allé non plus dénoncer les uns et les autres, c'était pas le but. Mais Dieu, il est là aussi et il nous apprend dans ces moments d'injustice à savoir lui faire confiance. Est-ce que dans ces moments où il y a l'injustice, on est capable de dire Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, peu importe que j'ai loupé ma promotion, peu importe que j'ai pas eu d'augmentation, parce que je suis chrétien, Seigneur, je veux rester fidèle. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas justement d'avoir telle chose ou telle autre chose. Ce qui m'importe, c'est d'avoir ton approbation à toi. Et justement, comme on l'a lu dans ce verset, peut-être que la justice dont il est question, ça serait plutôt cette persévérance à bien faire. Ce désir de toujours faire ce que le Seigneur nous demande. Et il y a quelqu'un qui l'a résumé dans cette manière, c'est la justesse de caractère devant Dieu et la justesse des actions devant les hommes. Ça serait sûrement beaucoup plus ça, cette justice dont il faut avoir faim et soif. Le désir d'obéir à Dieu, le désir de marcher dans la sainteté, le désir de marcher dans la vérité, dans tout ce que Dieu nous demande, être conforme. Et je dirais que le péché, c'est exactement l'inverse. Vous savez qu'il y a plusieurs mots qui qualifient le péché dans la Bible, et il y en a un en particulier qu'on en a traduit par injustice ou par iniquité. Et en fait, c'est justement cela, de ne pas faire ce qui est juste. Quand je ne fais pas ce qui est juste, ben je pêche. Quand je fais ce qui est juste, quand je fais ce qui est conforme à la loi de Dieu, ben je vais de l'avant, je peux goûter à cette bénédiction, à ce bonheur que le Seigneur m'a préparé. De quelle justice il est question? C'est cette justice-là, d'être droit devant le Seigneur, la droiture de cœur. De quoi maintenant? Comment il faut avoir le désir envers cette justice? Eh ben il y a cette comparaison qui est là. Ceux qui ont faim et soif, avoir faim et avoir soif. Et vous êtes d'accord que la faim et la soif, ça décrit des désirs très forts. Et peut-être aujourd'hui on est dans un pays où il y a assez de richesse et d'abondance pour pas se rendre compte de la chose. Mais dans des pays où sont dans des endroits désertiques, ou là où il y a du manque d'eau, on se rend compte que c'est quelque chose d'important. Et quand Jésus il parle de ces choses, eh bien, à l'époque, en tout cas, c'était le cas, que ça pouvait arriver, que si on ne prenait pas de précautions, on pouvait mourir facilement de faim ou mourir de soif très vite, parce que ça cognait et parce qu'il y avait des endroits désertiques. Et les routes, c'était pas les transports en commun, c'était vite fait d'un endroit à un autre, c'était à pied, ou des fois ceux qui avaient des sous, ils avaient des chevaux, mais c'était pas les voitures comme aujourd'hui. Et quand Jésus parle de cela, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, il parle vraiment de ceux qui ont un désir profond pour la justice, un désir profond d'obéir au Seigneur. Et on pourrait lire le psaume 119 en entier, et qui est incroyable parce qu'à plusieurs reprises, j'en ai pris plusieurs exemples, mais à plusieurs reprises, on voit que David, il emploie des paroles pour dire des choses incroyables par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. Je vous prends des exemples, psaume 119, verset 16. « Je fais mes délices de tes statuts. Mon âme est brisée par le désir qui me porte vers ta loi. Tes préceptes font mes délices, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Et David, il était tellement rempli de ce désir d'être dans la présence de Dieu, tellement rempli de ce désir d'être dans la communion avec le Seigneur. Il a même regardé autour de lui dans la nature, essayé de trouver des exemples qui pouvaient lui faire comprendre encore de quelle manière ça se passait dans son cœur. Et il a pris cet exemple au psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Et vous voyez dans ces passages un homme qui a faim et soif de justice. Vous voyez dans ces passages un homme qui n'est pas seulement intéressé par quelques gouttes du Seigneur, mais qui a véritablement faim et soif. C'est-à-dire qu'il y a un désir ardent pour la présence de Dieu, un désir ardent pour la parole de Dieu, un désir ardent de savoir ce que le Seigneur attend de lui, de savoir s'il est dans la volonté de Dieu ou s'il n'y est pas. Et qu'il y a un homme qui est là et qui n'est pas capable de rester immobile, de rester indifférent, de rester sans penser, mais un homme qui désire savoir ce que Dieu attend de lui. Est-ce que nous sommes dans cette attitude de cœur ? Est-ce que nous sommes de ceux qui ont faim et soif de la justice, faim et soif d'être approuvés de Dieu? Mais quand il est question de faim et soif, c'est vraiment quelque chose ardent, pas une pensée de temps en temps. Ah Seigneur, est-ce que je marche bien aujourd'hui? Non, c'est continuellement quelque chose qui est là, comme une obsession, mais dans le bon sens du terme. Même la nuit, on se lève, on se réveille et on réfléchit. Seigneur, parle-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, je soupire après toi, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de ta présence dans ma vie. Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit? Ou est-ce qu'on se contente d'avoir certains sentiments religieux à certains moments? Certaines choses, de bonnes pensées de temps en temps, mais qui ne sont pas profondes, qui ne sont pas ardentes. L'opposé du désir ardent pour la présence de Dieu, du désir ardent pour la justice de Dieu, c'est pas de pas avoir de désir, parce qu'on est des êtres faits de désir. On est des êtres humains, et par définition, on a des désirs, forcément. Sauf qu'on peut avoir des désirs pour Dieu, ou on peut avoir des désirs pour toutes sortes d'autres choses. Quand on a des désirs pour Dieu, quand on a le désir de la justice de Dieu, la faim, la soif de la justice de Dieu, eh bien ça c'est comme si ça chassait les autres désirs. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien ces désirs, ils reviennent en tout cas. Ils reviennent dans notre vie. Et il y a des choses qu'on peut désirer, mais que la Bible dit que ça ne nourrit pas. Des choses dont on peut avoir faim et soif, mais qui ne vont pas nous rassasier. Et Ésaïe 55 nous en parle de manière très claire. Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. » Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » On comprend très bien dans ce passage qu'il y a des choses dans la vie qui ne nourrissent pas. Elles ont beau être bonnes en soi, elles ont beau être bien, c'est pas parce que ce sont des choses bien que ça nous nourrit. Seulement les choses que le Seigneur nous prépare peuvent nourrir notre âme. On sait que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture de l'âme, mais on sait que la présence de Dieu, c'est comme aussi quelque chose qui est là, qui va nous rassasier, qui va répondre à un besoin, parce que l'homme, il a été créé avec ce besoin d'avoir une communion avec Dieu. Et le péché est là, et il a l'impression de l'aveugler et de lui faire croire qu'il n'en a pas besoin de cette communion. Mais en nous, au fond de nous, il y a cette réalité qu'on a besoin de Dieu. Il y a cette réalité qu'on a besoin d'être nourri par des choses véritables, pas par des choses passagères. Merci Seigneur si j'ai une maison, merci Seigneur si j'ai une voiture, mais quand je vais mourir, je vais pas avoir ma maison avec moi, je vais pas l'emporter au ciel, ni ma voiture, ni quoi que ce soit. Il y aura que mon âme que je vais pouvoir emporter. Et c'est cette chose, cette question qui doit m'interpeller, c'est savoir où c'est qu'elle va aller cette âme. Si en tout cas, j'ai faim et soif de justice. Si j'ai faim et soif des bonnes choses, si j'ai faim et soif de faire la volonté de Dieu, si j'ai faim et soif de me détacher du péché, ben je sais que je vais aller dans son ciel de gloire. Et vous avez remarqué que les questions qui sont là, elles nous interpellent. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? C'est vrai qu'on peut passer toute une vie à travailler pour des choses qui vont périr un jour, travailler pour avoir de l'argent, travailler pour avoir toutes sortes de biens matériels qui vont passer. Mais Jésus nous a donné par son sacrifice la possibilité d'avoir cette eau qui va rafraîchir nos cœurs, ces mets délicats qui vont rassasier notre âme, le fait d'avoir cette parole qui va pouvoir combler le vide intérieur qui est là, qui va pouvoir nous montrer ce que Dieu attend de nous dans notre vie. Et tout cela est possible et tout cela est disponible gratuitement parce que il a payé le prix, lui. À la croix, comme on l'a chanté, par son sacrifice, Il a payé le prix pour que je puisse, moi, avoir accès à ce torrent d'amour et de grâce. Est-ce que j'ai faim et soif de la justice de Dieu? Quelqu'un a dit cette chose qui est tellement vraie et tellement simple. Quand un homme a faim, la seule chose qui va le satisfaire, c'est la nourriture. Et c'est vrai que à quelqu'un qui est en train de mourir de faim, si vous lui présentez des bijoux ou si vous lui présentez une Ferrari, ça ne va pas l'intéresser du tout. Si vous lui présentez un bon poulet entier, et c'est, ça c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Ou si vous lui présentez, s'il a soif, et vous lui présentez un verre d'eau, rien que ça, ça, à côté des bijoux, il va vite choisir le verre d'eau. Parce que celui qui a faim et celui qui a soif, il a un besoin particulier que seulement la nourriture ou seulement la boisson peut répondre. Et nous sommes dans un monde où on nous propose toutes sortes de choses autour de nous. Toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de tentations qui sont là et qui sembleraient répondre à un besoin, mais qui ne sont pas le besoin véritable. Et nous avons besoin, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Christ, de réfléchir à cette chose. J'ai besoin, j'ai faim et soif de la justice de Dieu. Je n'ai pas faim et soif de ce qu'il y a dans ce monde. Merci Seigneur pour ce que je possède, ou merci Seigneur pour les biens matériels, mais j'ai faim et soif des vraies choses, des choses qui rassasient véritablement. C'est sûr que si je me nourris de choses qui ne nourrissent pas, eh bien je peux me nourrir pendant longtemps et longtemps, ça ne va rien changer la chose en soi. Je prends un exemple tout simple, mais si tous les jours je prends un grain de semoule pour me nourrir, je peux en prendre tous les jours pendant 100 jours d'affilée, ça ne va pas me nourrir longtemps, hein. Je ne sais pas si je vais survivre. Vous êtes d'accord ? Surtout moi. Mais si je me nourris tous les jours d'un bon steak, un bon poulet, avec des légumes qui vont avec, etc., je vais peut-être même trop me nourrir, trop avoir de poids. Mais enfin, au moins, je ne vais pas mourir de faim. Et est-ce que nous sommes de ces personnes qui vont se nourrir des bonnes choses, qui ne vont pas se contenter des choses qui ne nourrissent pas, mais qui vont véritablement réaliser, il y a des choses sur cette terre qui peuvent nourrir, et ces choses, ce sont la parole de Dieu que le Seigneur nous a laissée, qu'il a permis que ça soit transmis jusqu'à aujourd'hui, cette parole qui est vivante et efficace, qui peut faire son action dans nos cœurs, qui peut nous fortifier à l'intérieur, nous permettre de devenir de plus en plus justes par la grâce de Dieu. Oui, on a chanté que Jésus, c'est par sa justice que nous pouvons rentrer dans sa présence. Mais c'est grâce à cette justice-là, nous rentrons dans la présence de Dieu. Mais maintenant, il nous faut à nous devenir de plus en plus justes, de devenir de plus en plus à l'exemple de Jésus, devenir de plus en plus obéissant comme lui l'était. Il est notre modèle, nous avons besoin de faire ce qu'il faisait lui. Et la faim et la soif, vous êtes d'accord qu'un mort, il éprouve plus ces choses-là. Le mort, il n'a plus faim et il n'a plus soif. Et si nous n'avons pas faim et pas soif des choses de Dieu, j'en déduirai facilement que nous sommes morts, qui que nous soyons, même si on a été converti un jour, mais si on n'a plus faim et soif des choses de Dieu, si ça fait un moment qu'on est totalement dans cet état d'esprit et qu'on n'a plus ce désir, on n'a plus ce sentiment qui nous éloigne de Dieu et qui voudrait nous rapprocher de Dieu, on n'a plus ce besoin qui est là dans notre cœur et qui nous interpelle, qui nous pousse à rechercher davantage sa présence. Si on n'a plus ça, on est mort. Et comment être à nouveau ramené à la vie, si ce n'est qu'en croyant en Jésus-Christ ? Jésus, il a dit cela, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le seul moyen de revenir, de pouvoir avoir un nouveau faim, un nouveau soif de justice, est-ce que ce n'est pas justement de demander pardon pour ses péchés, demander pardon pour sa lassitude, demander pardon pour son manque d'assiduité, pour son manque de persévérance, et de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me redonnes la vie, rends-moi la vie selon ta parole », c'est le psaume 119. Et à plusieurs moments, David il dit « Rends-moi la vie, ravive-moi Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose en moi, je sens peut-être qu'en ce moment je me refroidis, je sens qu'en ce moment il y a quelque chose qui m'éloigne de toi, mais je ne veux surtout pas m'éloigner de toi. Je veux être ramené dans ta présence. » Oui, un mort n'éprouve pas la faim et la soif. Et quand on regarde l'exemple du riche dans la parabole, dans l'histoire avec le pauvre Lazare, il y a quelque chose qui est interpellant aussi. Luc chapitre 16. Il y a un moment donné où cet homme, il est amené au ciel. Le pauvre Lazare est amené au ciel et le riche, il est amené à côté où il peut voir justement Lazare. On va le lire en entier. Verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. » Vous avez remarqué qu'il y en a un qui est déjà rassasié de bien, rassasié. Lui, il peut manger à sa faim, et l'autre, justement, il voudrait peut-être manger. Là, c'est plus dans le côté concret de la chose. Il voudrait une nourriture, il voudrait même seulement les miettes, déjà, ça lui ferait du bien. Mais il ne peut pas y accéder. Et on voit que quand ils vont dans le séjour des morts pour l'un et dans le sein d'Abraham pour l'autre, il y a quelque chose qui change. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et regardez ce qu'il dit. S'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » On est en présence d'un homme qui a été rassasié toute sa vie et qui il arrive dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il se trouve que c'est un peu comme s'il avait soif. Il désire que quelqu'un vienne lui donner à boire, lui rassasier, rien qu'une goutte seulement aussi. Mais il souffre tellement qu'il a besoin d'avoir cette chose. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a un moment, si on n'a pas soif sur la terre et qu'on a soif dans le séjour des morts, ça sera tout tard. Ça sera un moment où l'affaire sera réglée déjà. Voilà pourquoi c'est important de maintenant avoir faim et soif de justice. Maintenant, savoir comment est notre cœur par rapport au Seigneur, par rapport au désir de sainteté, au désir d'être approuvé du Seigneur. Et maintenant, nous avons besoin de régler la question du péché, de savoir quel sera notre sort pour l'éternité. Maintenant, nous avons besoin de répondre à cela. Si nous attendons comme ce riche, si nous nous contentons de bien vivre, bien manger, nous occuper de notre vie, nous occuper de nos choses à nous, pas nous intéresser aux pauvres qui sont à notre porte, comme ça a été le cas pour ce riche, ben le Seigneur lui fera justice. Et si nous n'avons pas faim et soif de justice maintenant, c'est pas dans le séjour des morts qu'on aura faim et soif. On aura faim et soif de justice, mais ça arrivera jamais peut-être, et sûrement d'ailleurs. On aura faim et soif de toutes sortes de choses, mais il n'y aura plus les choses de la terre qui seront là comme des illusions pour nous empêcher de voir la réalité. Dans le séjour des morts, il y aura la mort. Et nous avons besoin de réfléchir à cela, de manière très sérieuse. L'homme riche a eu soif après sa mort, mais c'était trop tard. Alors, n'attendons pas d'avoir soif. Et je finirai avec cette chose, toute simple. Comment, concrètement, aujourd'hui, on fait pour avoir soif? Comment aujourd'hui on fait pour avoir faim? Bon, bien sûr, c'est quelque chose de naturel, mais qu'est-ce qu'on peut faire qui va accentuer ce désir qui est là en nous, ce besoin qui est là de manger ou de boire? Ben, simplement en faisant de l'exercice. Et comment, spirituellement, on peut avoir faim et soif de justice et grandir dans cette dimension de la vie chrétienne? En faisant l'exercice aussi. Mais l'exercice spirituel, il y a plusieurs passages qui sont là, qui nous montrent que, par exemple, Paul qui dit à Timothée, exerce-toi la piété. Exercez l'hospitalité. C'est-à-dire prenez votre cœur, prenez votre désir de plaire au Seigneur et exercez-le de manière pratique. Exerce-toi la piété. Viens à la réunion, mais viens pas seulement à la réunion de manière religieuse, viens en choisissant vraiment de recevoir une parole du Seigneur, en préparant ton cœur et en priant aussi, en demandant au Seigneur, Seigneur aide-moi à être en bénédiction à une personne que je peux rencontrer ce soir, que ça soit sur la route, que ça soit à la réunion, que ça soit après, peu importe. Mais Seigneur, aide-moi à être en bénédiction. Comment entretenir la faim et la soif? Eh bien, justement, en faisant cet exercice. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, par exemple. Il y a plein de passages qui nous parlent du fait d'exercer notre piété, exercer notre foi de manière concrète. Si on fait ces choses, si on s'y applique véritablement, alors ça va nous permettre de grandir encore dans ce désir. Et je dirais, excusez-moi pour l'image, mais c'est comme les gâteaux apéro. Plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Comprenez l'image, que des chips là, c'est pas parce qu'on en mange deux qu'on est satisfait. Plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Tout ce qui est salé ou tout ce qui est sucré d'ailleurs, c'est pareil. de l'eau avec du sirop, plus on en boit, plus on a envie d'en boire. Et de manière spirituelle, c'est la même chose. Et ce qui est incroyable, c'est que plus on en prend, plus on est rassasié, mais plus on en a besoin. Et plus notre besoin il grandit, et plus on a envie encore d'en prendre davantage. Heureusement qu'on ne fait pas ça avec les chips, hein, vous êtes d'accord. Mais combien on a besoin de faire ça avec la parole de Dieu, avec la prière, avec tout ce que le Seigneur nous a laissé comme commandement. Oui, mon âme est brisée par le désir qu'il apporte vers ta loi. Est-ce que nous sommes dans cette dimension? Est-ce que nous sommes vraiment dans ce cœur qui, quand il se rend compte qu'il est loin du Seigneur, quand il se rend compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis entre lui et son Seigneur, eh bien, notre âme est brisée. Et on ne peut pas se le donner du repos. On ne peut pas rester comme ça dans l'indifférence. On ne peut pas rester comme ça dans l'immobilisme. On est obligé de réagir. On est obligé de faire quelque chose. On est obligé de se repentir. On est obligé de lire la parole. On est obligé d'appeler quelqu'un, un ami, pour un joker, mais pour demander véritablement du secours spirituel. J'ai besoin de ton aide dans cette situation. J'ai besoin que tu m'aides. Viens parler avec moi. Est-ce qu'on est des personnes comme ça qui ont faim et soif de la justice de Dieu? Ben si oui, la promesse elle est là. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et je me souviens dans les évangiles, des fois où les personnes ont été rassasiées, elles n'ont pas été rassasiées par leur mérite, elles n'ont pas été rassasiées parce qu'il y avait des disciples qui étaient hyper pleins de foi, elles ont été rassasiées parce qu'il y avait Jésus. Parce qu'il y avait la présence de Jésus. Jésus a pu multiplier les pains et les poissons. Vous vous souvenez de cet épisode où il a pu avoir la multiplication. Des foules entières ont été rassasiées. Parce qu'il y a un homme qui a pratiqué la justice. Un homme qui était agréable à Dieu. Un homme qui était obéissant. Et je crois que si nous prenons l'exemple de Jésus, si nous sommes chacun pour notre part, tous ceux qui sont là ce soir, si nous avons faim et soif de justice, si nous recherchons à faire la volonté du Seigneur dans notre vie, eh bien nous allons pouvoir non seulement nous rassasier nous, mais rassasier aussi les personnes autour de nous par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que nous désirons être heureux? Est-ce que nous désirons être bénis? Mais je sais que vous allez répondre oui à ces questions. Alors faisons ce que le Seigneur nous demande. Ayons faim et soif de justice, tout simplement. Et le Seigneur va nous rassasier. Amen. Oui, Seigneur, nous reconnaissons encore ce soir ta bonté et ton amour. Et nous reconnaissons que nous ne méritons rien et que c'est seulement à cause du sacrifice de Jésus, que nous pouvons être rassasiés, que nous pouvons trouver en toi, dans ta parole, tout ce qu'il y a de bon et de magnifique pour nos vies, Seigneur. Alors, permets que dans ces moments, nous puissions, Seigneur, renoncer à ces choses de ce monde qui ne nourrissent pas. Merci parce que tu nous as donné accès à ces eaux qui coulent abondamment de ta présence. Merci parce que tu nous as donné accès à ces mets succulents de ta parole, Seigneur, et de la communion avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ces choses pendant notre vie, mais au contraire, nous voulons avoir faim et soif de ces choses, faim et soif de ta justice, faim et soif de faire ta volonté dans notre vie. Seigneur, oui, nous savons que certaines fois nous sommes sujets à des injustices, parce que nous sommes chrétiens, mais tu as dit aussi d'être heureux si on se moque de nous à cause de la justice. Alors Seigneur, nous voulons être heureux dans tous les moments, dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, dans les moments où tu es obligé même de nous châtier parce que nous avons péché. Seigneur, nous voulons être heureux parce que nous savons que c'est pour notre bien, c'est pour notre perfectionnement, c'est pour que nous puissions pratiquer la justice davantage. Alors Seigneur, dans ces moments, permets que ta parole puisse agir au plus profond de notre être et mettre en lumière ce qui a besoin d'être révélé au grand jour. Merci parce que tu es toujours là dans une attitude d'amour, une attitude de paix, une attitude de bonheur envers nous, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, saisir ta main, saisir tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ces choses. Alors permets que dans ces moments, tu puisses encore graver ces paroles au fond de notre cœur, que tu puisses encore dans ces moments répandre ton fleuve d'eau vive, Seigneur, dans nos cœurs, et que nous puissions déborder autour de nous. Oui, Seigneur, combien tu nous promets d'être heureux en toutes choses, combien tu nous promets ce bonheur et cette bénédiction dans notre vie. Et Seigneur, nous désirons ces choses. Nous désirons, Seigneur, vivre cette vie parfaite que tu nous as promise, Seigneur. Cette vie parfaite parce qu'elle est complètement plongée en toi et dans ta présence. Alors permets que dans ces moments, nous puissions prendre les bonnes attitudes, les bonnes décisions
qui vont te permettre de faire ton œuvre en nous, Seigneur, comme tu le désires. Qu'il n'y ait pas d'obstacles. Que, Seigneur, que les obstacles puissent tomber dans ces moments. Que tout ce qui pourrait faire une barrière, Seigneur, puisse tomber dans ces instants. Que le péché, que ce désir de ne pas faire ta justice puisse, Seigneur, s'éloigner de nous à cause du sang de Jésus-Christ, Seigneur. Et que tu puisses laver nos cœurs dans ces instants. Et que nous puissions prendre cette décision de t'être agréable parce que tu nous le demandes, Éternel. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.